RJB Info. Violette Ferreira.
Bonjour, c'était il y a 50 ans, jour pour jour, les trois districts de Courtelary, La Neuville et Moutier marquaient leur volonté de rester bernois. Aujourd'hui, on célèbre les 50 ans du vote du 16 mars 1975. Le jubilé du second plébiscite était au cœur d'un événement hier à Tramelan, organisé par le groupe antiséparatiste Force démocratique. Quelques jours après le vote du Conseil national qui a approuvé la modification des frontières avec le transfert de Moutier, que reste-t-il de la lutte ? Patrick Rutlisberger, vice-président de Force démocratique.
Alors, il reste que les trois anciens districts du Jura bernois sont restés dans le canton de Berne jusqu'à 2021. Donc, pour nous, ce qui était quand même une grande victoire, les gens ne s'attendaient pas à ça. Pour Force démocratique, c'est quand même un acquis suite au travail qui a été fait, mais aussi au GFFED, je tiens à le souligner, qui était la partie féminine.
50 ans après, qu'est-ce qui va se passer ? Comment vous imaginez peut-être les 50 autres prochaines années pour Force démocratique ? Est-ce qu'on parle d'une mise en veille du mouvement, d'une dissolution du mouvement ?
Écoutez, on a eu un comité la semaine dernière où on a mis le point à l'ordre du jour, déjà pour prendre la température, et on a donc décidé de réfléchir jusqu'au début de l'année prochaine, où là on fera le point définitif si on met en veille ou si on dissout. Rien n'est décidé encore.
À noter que le groupe Sanglier n'a pas souhaité communiquer ses intentions pour l'avenir de ce mouvement. Autre anniversaire, celui du confinement. Souvenez-vous, il y a tout juste 5 ans, le Conseil fédéral déclarait l'état d'urgence en raison de la pandémie de Covid-19. Parmi les premiers infectés, Laurent Kleisel, rédacteur en chef du journal du Jura, il se souvient de ces quelques semaines enfermées chez lui avant de développer une forme de Covid long.
J'ai été 2 semaines dans ma chambre au lit, parce que j'étais vraiment très mal. J'étais à 2 doigts d'aller à l'hôpital. C'était pas pulmonaire, c'était vraiment la tête. Je délirais beaucoup. Je maîtrisais plus mon esprit. J'avais l'impression de partir totalement en vrille. C'était 2 semaines très dures. Aussi, la famille a dû rester aussi à la maison. On a dû organiser notre petite vie avec papa dans la chambre qui sortait à certains moments pour aller aux toilettes ou prendre une douche. C'était très, très particulier.
Et puis, vous avez développé une forme de Covid long, si on peut dire, pendant un an, une année. Ça a été assez compliqué.
On va dire que jusqu'à la fin 2020, début 2021, j'avais des moments de fatigue assez extrêmes. Je pouvais faire une nuit de 7h30, 8h, une bonne nuit de sommeil et me réveiller le lendemain comme si j'avais fait la fête toute la nuit. Des fois, j'avais des moments où c'est que j'avais du mal à suivre les conversations. Je parle au niveau professionnel, des choses un petit peu compliquées. J'avais du mal à m'accrocher à propos de mes interlocuteurs. Ça m'a pris à peu près une année.
Et le premier cas confirmé de Covid a été recensé le 25 février 2020 en Suisse. Participation record pour le School Dance Award. Plus de 470 jeunes ont pris possession du Palais des Congrès hier à Bienne. Ils participaient à la 29e édition de ce concours de danse entre élèves du canton. Cette année, le thème choisi était celui de Netflix. Les groupes de danse Diamonds, Dropout et The Search sont les 3 lauréats. Ils participeront à la finale suisse du Nord-Ouest le 22 mars. L'école primaire de La Neuville, avec son équipe Netflix, reçoit le prix du public de la BCBE. Une entreprise de transport aurait éliminé illégalement 140 camions de déchets dans la carrière de Mittholz dans l'Oberland bernois. C'est une information de la NZZ am Sonntag. Au total, 4050 tonnes de déchets n'ont pas été correctement déclarées. Le journal dominical a eu accès à un projet d'acte d'accusation du ministère public du canton de Berne. Le transporteur au cœur de l'affaire est accusé de tromperie astucieuse alors qu'il avait été payé pour amener à la décharge les déchets de plusieurs entreprises. Les jeux de figurines à l'honneur de l'UDESCO, la 16e édition du festival de jeux, se tient en ce moment à La Chaux-de-Fonds. 56 heures non-stop qui se terminent ce soir. Le temps d'un week-end, la métropole horlogère fait donc découvrir une multitude de jeux divers à tous les passionnés. C'est d'ailleurs la première fois que les portes du Musée international d'horlogerie s'ouvraient à l'UDESCO. Pour marquer le coup, un tournoi de Warhammer a été organisé hier. Et pour ceux qui découvrent ce jeu, voilà quelques explications avec Robert joueurs et participants des championnats du monde l'année dernière.
C'est un jeu de guerre des années 80 pour les gens qui aiment la stratégie et le hasard, parce que c'est un mélange de stratégie et de lancer de dés. On lance beaucoup de dés dans un univers fantastique. On pourrait dire un peu fantasy à la Seigneur des Anneaux. On peut pour mettre, il y a des trolls, il y a des démons, il y a des chevaliers. À la base, c'était un jeu où il fallait vraiment anéantir l'ennemi adverse. Maintenant, ils ont un tout petit peu changé. Il y a des objectifs posés sur la table. On peut aussi gagner sans forcément détruire l'autre.
Et si Warhammer s'est retrouvé à l'UNESCO, c'est un peu grâce à Cornelia Gruber qui fait partie de l'organisation du festival. Elle a découvert ce jeu grâce à son fils Lille qui participait au tournoi.
C'est moi qui ai vraiment poussé pour Warhammer parce que j'adore. C'est magique, c'est très créatif, fantasy et c'est très beau pour le public justement. C'est quelque chose pour même pour les non-joueurs. Si on a un petit peu d'intérêt, je sais pas, la magie, hein, la fantasy, c'est une exposition aussi.
Ouais, on voit les figurines qui sont peintes, c'est très joli. Hein.
C'est magnifique. Hein. Ils sont peints avec la loupe, ils passent des heures. Et moi, j'aime beaucoup parce que ce n'est pas juste s'asseoir et jouer. C'est toute une très longue préparation, c'est une passion.
Être ici au MIH, c'est aussi cool.
Ouais, c'est magnifique. C'est, on ne peut pas imaginer ça le plus belle que celle-là pour ce genre de choses.
Un reportage de Stéphanie Wenker. L'UNESCO se poursuit encore cet après-midi et jusqu'à 20h ce soir. Deux portes de secours étaient restées fermées lors de l'évacuation d'un avion suisse à Graz en Autriche en décembre. C'est ce que relate le Sonntag Blick ce matin. On ignore encore la raison du blocage puisque l'examen des issues inutilisées est toujours en cours. Un rapport intermédiaire du service d'enquête autrichien sur la sécurité est attendu demain. Le 23 décembre, cet Airbus qui reliait Bucarest à Zurich avec 74 passagers et 5 membres d'équipage à bord avait dû atterrir d'urgence en raison de fumée dans la cabine. Un steward est décédé. La Suisse doit se préparer à la guerre, selon l'ancien général américain. Dans une interview au Sonntag Blick, Ben Hodges explique qu'un retrait des troupes américaines en Europe n'est qu'une question de temps. Pour lui, la Russie ne respecte pas la neutralité helvétique. L'ancien commandant des forces de l'OTAN en Europe pense que le meilleur moyen d'empêcher une guerre est de s'y préparer. Menace de riposte, les rebelles au Yémen, touchés la nuit dernière par des frappes américaines, réagissent. Les Houthis qui contrôlent de larges pans du Yémen en guerre ont averti que ces frappes ne resteront pas sans réponse. Selon un dernier bilan, une trentaine de morts et une centaine de blessés sont recensés. Montagne russe sur le plan météorologique pour la Grèce. Les températures ont grimpé à un niveau record pour un mois de mars ce week-end. Le mercure a dépassé les 31 degrés. Maintenant, un épisode de neige et de gel est prévu dès mardi selon les services météo.
RJB Sport.
Loïc Meillard, une nouvelle fois aux avant-postes en Norvège. Au lendemain de sa victoire aux géants, le skieur valaisan pointe en tête du slalom de Coupe du Monde à Afiel après la première manche. Il devance le Brésilien Lucas Pinheiro Broten de 34 centièmes et l'Autrichien Fabio Kirstein de 44 centièmes. Deux autres Suisses se classent dans le top 10. Tanguy Neff est 8e et Daniel Yule 10e. Le départ de la seconde manche sera donné dans quelques minutes à midi. Reprise cruelle pour le FC Tavan Tramelan qui se fait accrocher en toute fin de rencontre. Les footballeurs ont partagé l'enjeu un partout avec Lerchenfeld hier pour le retour du championnat de deuxième ligue interrégionale. Ils ont concédé l'égalisation dans le temps additionnel. Le FCTT remonte à la 14e place avec 2 points de retard sur le premier non relégable. Le FC Bienne a l'occasion de récupérer son fauteuil de leader de Promotion League. Il accueille Baden cet après-midi à 15h à la Tissot Arena. Le FC va tout faire pour se relancer après sa défaite contre la réserve de Lugano la semaine dernière. Mais les footballeurs biennois devront se battre s'ils souhaitent se retrouver au sommet du classement. Les précisions de Corentin Reiss.
Malgré la superbe victoire en quart de finale de Coupe de Suisse contre Lugano, le FC Bienne connaît un début d'année mitigé en championnat avec 2 défaites en 4 rencontres. Mais si on regarde le positif, ces 2 revers sont survenus en déplacement et les Célandais restent invaincus dans leur antre de la Tissot Arena. Ils auront donc à cœur de le rester et de se relancer avec une certaine motivation supplémentaire. Après la défaite de Kryons 2-1 à Bâle hier soir, le FCB tient en effet une occasion en or de reprendre la tête du classement. classement. Le FC Baden a beau être une équipe qui évoluait en deuxième division la saison passée, il connaît un exercice compliqué en Promotion League cette année et flirte avec la zone rouge. Les Biennois pourront également compter sur deux retours de taille dans l'effectif cet après-midi. Suspendus le week-end dernier, Mathieu Méder et Loïc Soka seront bien à disposition de l'entraîneur Samir Chaybedra. Légèrement blessé depuis quelques jours, l'ailier Omer Zonlagic devrait lui aussi être en mesure d'aider les siens. Le FC Bienne sera en revanche privé d'Abdoulaye Koulibaly, suspendu en raison d'un trop grand nombre de cartons jaunes. Mais il dispose de toutes les cartes pour livrer une belle prestation cet après-midi.
Bienne Baden, une rencontre à vivre en direct sur RJB dès 14h45. Ce sera avec les commentaires de Nicolas Meusy. Lando Norris remporte le premier Grand Prix de la saison. Le pilote britannique de McLaren a devancé le champion en titre néerlandais, Max Verstappen, ce matin en Australie à l'occasion du lancement de la saison de Formule 1. Un autre britannique, George Russell, a complété le podium. À noter que pour sa première course avec Ferrari, le septuple champion du monde britannique, Lewis Hamilton, a pris le 10e rang.
RJB Sport.
Avant de retrouver votre cocktail populaire sur RJB, on fait le point sur la météo du jour. Le temps va rester nuageux avec des averses persistantes jusque dans la soirée. Des flocons pourraient tomber dès 1000 mètres d'altitude selon Météo News. Pour les températures, il fera maximum moins 3 sur les crêtes, 3 degrés dans les vallons et jusqu'à 6 degrés dans le Seeland. Une légère bise souffle sur le Seeland et dans les vallons. Sur les crêtes, c'est un vent de secteur nord-ouest faible à modéré. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un très bon dimanche à vous à l'écoute de RJB avec bientôt le cocktail populaire.